Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast d'Innartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Techniques de blanchiment et moyens de lutte, 5e édition » d'Éric Vernier est un ouvrage de référence à la croisée de la finance, du droit et de la conformité. Consacré au blanchiment d'eau d'argent et aux réponses déployées pour le prévenir et le réprimer. Le livre propose une approche structurée qui part des sources et composantes de l'argent sale, puis décrit les principales typologies de blanchiment. Des procédés les plus simples au montage plus sophistiqué. Il met ensuite l'accent sur les dispositifs de lutte, en articulant les textes applicables. Le rôle des organismes officiels et les obligations des professionnels soumis aux règles de vigilance. Cette édition se veut actualisée au regard des évolutions récentes, notamment au niveau européen, et des dynamiques de renforcement institutionnel. Conçu pour être à la fois complet et opérationnel, l'ouvrage vise à aider le lecteur à comprendre comment l'argent criminel s'insère dans l'économie légale. Et pourquoi la lutte reste un enjeu économique, politique et social majeur? Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, origines et composantes de l'argent sale, le livre commence par clarifier ce que recouvre l'argent sale et pourquoi sa circulation constitue un enjeu systémique. Avant de détailler les techniques, il est nécessaire de identifier les sources possibles des fonds illicites et les logiques qui poussent les organisations criminelles à rechercher une intégration dans l'économie légale. Cette mise en perspective aide à comprendre que le blanchiment ne se réduit pas à une fraude isolée, mais à un processus qui accompagne la criminalité organisée. La corruption et diverses formes de délinquance financière, en distinguant les origines et les composantes des flux. L'ouvrage fournit un cadre de lecture utile aux acteurs exposés qui doivent apprécier le risque, qualifier une opération ou reconnaître des signaux d'alerte. La réflexion insiste aussi sur la dimension internationale du phénomène et sur la capacité des flux à se déplacer vers les zones ou les secteurs les moins contrôlés. Cette entrée en matière pose les bases pour relier les mécanismes économiques, les incitations criminelles et les vulnérabilités de certains marchés. Condition indispensable pour comprendre ensuite comment les techniques de blanchiment exploitent les failles de la finance, du commerce et des services. Deuxièmement, typologie et étapes du blanchiment. Un apport central de l'ouvrage est de proposer des définitions et des typologies qui permettent de classer les pratiques de blanchiment sans les réduire à un seul schéma. Le lecteur est guidé à travers une compréhension par grande famille de méthodes et par logique de processus, ce qui facilite l'analyse opérationnelle dans les organisations. Sans s'enfermer dans une mécanique unique, le livre met en évidence que le blanchiment vise à rendre des fonds utilisables en brouillant leur origine, en multipliant les transformations et en recherchant une apparence de normalité économique. Cette approche typologique sert autant aux professionnels de la conformité qu'aux enquêteurs ou aux étudiants, car elle permet de relier une opération observée à une logique criminelle sous-jacente. Elle aide aussi à comprendre pourquoi les dispositifs de contrôle doivent combiner des outils complémentaires, puisque les montages peuvent s'adapter rapidement, en pratique. Disposer d'un vocabulaire rigoureux et de catégories claires facilite la communication entre métiers, la rédaction de procédures internes et la formation, tout en évitant de confondre blanchiment, fraude et optimisation abusive qui obéissent à des dynamiques différentes. Troisièmement, techniques artisanales et techniques financières. L'ouvrage se distingue par un panorama large des techniques, en allant des procédés les plus accessibles aux dispositifs plus complexes, adossés à des instruments financiers ou à des structures juridiques. Les techniques dites artisanales renvoient à des pratiques de terrain qui reposent sur la manipulation d'espèces, la fragmentation des montants ou l'utilisation des intermédiaires. Et elles restent pertinentes car elles exploitent des faiblesses organisationnelles et des angles morts de la vigilance, en l'autre extrémité. Les techniques financières montrent comment des opérations plus sophistiquées peuvent mobiliser des comptes, des mouvements transfrontaliers, des placements, ou des montages visant à rendre la traçabilité difficile. L'intérêt analytique du livre est de mettre ces méthodes en regard des contraintes du criminel, du niveau de contrôle des secteurs et de la capacité des marchés à absorber des flux, pour les professionnels assujettis. Cette cartographie sert à relier les risques à des produits, des canaux et des comportements clients, et à concevoir des contrôles proportionnés. Elle éclaire aussi pourquoi certains secteurs, comme la finance ou l'immobilier, sont régulièrement cités comme sensibles, du fait de leur capacité à transformer des fonds en actifs apparemment légitimes. Quatrièmement, cadre de lutte et obligations des professionnels. Une partie structurante du livre est consacrée aux moyens de lutte en combinant la présentation des textes applicables, le rôle des institutions et les exigences imposées aux professionnels exposés. Et l'ouvrage met l'accent sur la logique de conformité qui s'est progressivement imposée, avec des obligations de vigilance, de connaissance du client, de suivi des opérations et, selon les régimes, de déclaration lorsqu'un soupçon est identifié. Cette perspective intéresse particulièrement les secteurs assujettis, comme les établissements financiers, les professions du chiffre ou les intermédiaires immobiliers, car elle relie le droit à des pratiques de contrôle interne. La dimension européenne et internationale est également prise en compte. Elle auteur soulignant elle évolution du cadre et les dynamiques de renforcement des dispositifs, notamment via des initiatives européennes récentes et la montée en puissance d'autres une coordination accrue. Elle approche est utile car elle ne s'en tient pas à énumération des règles, mais insiste sur leur finalité, leurs difficultés d'application et l'importance d'une organisation interne cohérente. Pour le lecteur, cela se traduit par une compréhension plus fine de ce qui est attendu en matière de gouvernance, de procédure et de culture du risque. En dernier lieu, enjeux économiques, politiques et sociaux et limites du combat, au-delà des mécanismes techniques. Le livre aborde les effets plus larges du blanchiment et les raisons pour lesquelles la lutte est souvent décrite comme asymétrique. Le blanchiment peut déformer la concurrence, fragiliser la confiance dans les institutions et créer des dépendances économiques locales lorsque des flux illicites irriguent certains secteurs. En traitant aussi des enjeux politiques et sociaux, l'ouvrage aide à comprendre que la lutte ne relève pas seulement d'une conformité administrative, mais d'un choix de société sur la transparence, l'intégrité des marchés et l'état de droit, une idée importante et que les criminels s'adaptent. Profitent des disparités réglementaires et exploitent l'opacité lorsqu'elle existe, ce qui rend la réponse plus complexe que l'adoption de nouvelles règles. L'auteur met également en évidence l'ambiguïté possible de certains environnements où des intérêts économiques peuvent être tentés de minimiser le problème, ce qui renforce la nécessité d'autorités de contrôle solides et d'une coopération internationale. Cette partie donne au lecteur des repères pour situer les obligations individuelles dans une stratégie collective et pour comprendre pourquoi la prévention, la détection et la répression doivent être articulées pour produire des résultats durables. En conclusion, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, 5e édition. S adresse de abord aux professionnels directement concernés par la conformité et la gestion des risques, notamment dans la banque, la finance, le conseil, la comptabilité ou l'immobilier, mais aussi aux acteurs publics impliqués dans la prévention et la répression. Les enseignants et étudiants y trouveront une synthèse structurée pour relier concepts, typologies et cadres institutionnels. Le bénéfice principal du livre tient à sa capacité à combiner une cartographie des techniques avec une lecture des dispositifs de lutte, ce qui permet de passer de la compréhension des mécanismes à l'action organisationnelle. Pour un lecteur en entreprise, l'intérêt est de mieux identifier les vulnérabilités, de comprendre la logique des obligations de vigilance et d'en améliorer la qualité des échanges entre métiers, conformité et contrôle interne. Pour un lecteur plus généraliste, l'ouvrage éclaire les conséquences du blanchiment sur l'économie et la vie publique et la difficulté à mener un combat efficace dans un contexte globalisé. Par rapport à des livres plus strictement juridiques ou purement descriptifs, celui-ci se distingue par son équilibre entre explication des pratiques, mise en perspective des enjeux et prise en compte d'un cadre réglementaire en évolution, ce qui en fait un outil de référence pour comprendre et agir. Si vous souhaitez soutenir Éric Vernier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.